Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi soir et c'est l'horaire de Saga. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de la saga Pink Floyd. La semaine dernière, nous vous avons proposé la première partie d'une longue saga de 6 heures consacrée à ce groupe anglais Pink Floyd à l'occasion de la réédition de leurs 14 albums studio qui ressortent dans des versions remasterisées avec RTL. Voici donc la seconde partie de cette émission exceptionnelle et comme la première, elle durera 3 heures. Nous reprenons l'histoire de Pink Floyd là où nous nous étions arrêtés samedi dernier, c'est-à-dire juste après le triomphe de l'album The Dark Side of the Moon. Nous suivrons ensuite les musiciens jusqu'au dernier développement de leur carrière, que ce soit avec Pink Floyd ou en solo. Et comme dans la première émission la semaine dernière, le concours de l'émission d'aujourd'hui vous permettra de gagner un exemplaire du coffret Discovery qui contient l'intégrale des 14 albums de Pink Floyd remasterisés, album qui paraît avec RTL. Bonne soirée, merci de nous écouter, merci de suivre la deuxième partie de la longue saga de Pink Floyd.
Thank you.
paru en 1973, en mars, Dark Side of the Moon a été pour Pink Floyd une réussite exceptionnelle. Ils vont devoir se montrer à la hauteur pour la suite car leur public est exigeant et impatient. Après une année sabbatique où chacun prend un repos bien mérité, les quatre musiciens se retrouvent en février 1975 pour enregistrer leur nouvel album « Wish You Were Here » qui paraîtra 7 mois plus tard. C'est une composition de Roger Waters, la longue suite « Shine on You Crazy Diamond » qui sert de clé de voûte à ce disque. Cette composition lui a été inspirée par Syd Barrett, dont la santé mentale continuait à se dégrader. Syd est d'ailleurs venu au cours des sessions rendre une visite impromptue à ses anciens partenaires qui ont eu beaucoup de mal à le reconnaître tant il avait pris du poids et changé d'apparence. « Wish You Were Here » connaît un énorme succès. Même leur maison de disques est prise de court, incapable de fabriquer assez de copies pour satisfaire la demande. Richard Wright et David Gilmour déclareront plus tard que « Wish You Were Here » est leur album préféré dans toute la discographie de Pink Floyd. Après Wish You Were Here, les quatre membres de Pink Floyd éprouvent le besoin de se ressourcer. Chacun le fait à sa manière. Rick Wright choisit le Farniente. David Gilmour produit le groupe Unicorn. Il joue avec Sutherland Brothers and Quiver et avec Rachid Barry. Nick Mason produit Robert Wyatt et Gong. Quant à Roger Waters, sa seule et unique préoccupation reste Pink Floyd. Ces quatre musiciens aux intérêts de plus en plus divergents refont surface avec Animals en janvier 1977. Le disque a été enregistré dans leur propre studio, Britannia Row, installé dans un entrepôt qu'ils ont acheté à Islington, dans le sud de Londres. Roger Waters, de plus en plus isolé, a signé quasiment toutes les compositions. C'est même lui qui a conçu la pochette de l'album. Inspiré par George Orwell, Animals évoque le déclin de la société dont il décrit les différentes couches en les comparant à des animaux. Les chiens combatifs, les cochons tyranniques et cruels, et les moutons soumis et apathiques. L'album Animals est présenté au public lors d'une tournée baptisée In the Flesh. C'est la première fois que Pink Floyd se produit dans de grands stades. En juillet 77 à Montréal, irrité par un groupe de spectateurs particulièrement déchaînés au pied de la scène, Roger Waters finira par leur cracher dessus. Cet incident sera à la base d'un nouveau projet, The Wall, qui paraîtra en novembre 1979. The Wall est la pièce maîtresse de l'œuvre de Roger Waters, qui nous explique la genèse et le sujet de ce classique de la rock music.
It's a piece of music theatre which essentially is about an alienation that I felt.
C'est une pièce de théâtre musical dont le sujet est le rapport aliénant entre un groupe de rock et ses spectateurs. Je l'ai ressenti en 77 lorsque nous tournions dans les grands stades avec Pink Floyd. J'avais l'impression que tout se réduisait à cela, combien de personnes dans le stade et combien ça va rapporter. Nous avions oublié le véritable objet du rock, qui est de faire passer des idées au travers d'une musique hautement électrifiée. Ce fut le point de départ de The Wall. Ensuite, j'ai eu l'idée de construire un vrai mur sur scène devant les musiciens pour traduire mon aliénation vis-à-vis des spectateurs. Mais le concept était un petit peu mince et il a fallu le développer. Durant les deux années qui ont suivi, l'idée a fait son chemin et la pièce est devenue autobiographique. Son sujet est demeuré l'aliénation dont j'ai parlé précédemment, mais aussi et plus généralement la manière dont les gens élèvent un mur autour d'eux petit à petit à chacune des blessures que la vie leur inflige.
Numéro 1 aux États-Unis et en Angleterre, Another Brick in the Wall Part 2 est le plus gros succès de Pink Floyd en single.
We don't need no education. We don't need no thought control.
The Wall témoigne de l'emprise absolue de Roger Waters sur Pink Floyd. Les musiciens n'enregistrent plus ensemble, mais séparément. Seul David Gilmour collabore encore vraiment comme guitariste, compositeur, coproducteur et clavier pour l'essentiel des morceaux. The Wall sera présenté en concert lors d'un show impressionnant qui creuse encore le fossé entre Roger Waters et les autres membres du groupe qui seront doublés par des musiciens supplémentaires sur scène. En août 1982, c'est encore Roger Waters qui signe le scénario de Pink Floyd The Wall, l'adaptation cinématographique de l'album paru 3 ans plus tôt. Le film a été réalisé par Alan Parker, qui a confié le rôle principal au chanteur des Boomtown Rats, Bob Geldof. En mars 1983, The Final Cut apparaît comme le dernier album de Pink Floyd. En réalité, on peut le considérer comme un album solo de Roger Waters, car ce qui reste du groupe y est réduit au rôle d'accompagnateur. The Final Cut est une suite donnée à The Wall, inspirée notamment par la guerre des Malouines et par la mort du père de Roger Waters, une œuvre d'un abord difficile qui n'aura qu'un succès mitigé. C'est aussi le seul album de Pink Floyd enregistré sans le clavier Rick Wright, qui a été écarté du groupe depuis les sessions de The Wall. Quelques mois après la sortie de l'album The Final Cut, Roger Waters annonce son prochain départ de Pink Floyd. On pense à ce moment que les activités du groupe vont s'arrêter définitivement. Il est alors temps de faire un premier bilan discographique en ajoutant aux albums déjà cités deux compilations, A Collection of Great Dance Songs, qui est sorti en novembre 1981 et qui contient une version remodelée de Money, et Works, qui est paru en juin 1983. En 1984, David Gilmour propose son deuxième album solo, About Face. Rick Wright, qui a fondé le groupe Z avec Dave Harris, le chanteur du groupe Fashion, publie l'album Identity en avril 1984. Quelques jours plus tard, c'est Roger Waters qui entame sa carrière solo avec un premier album, The Pros and Cons of Hitchhiking. Quant à Nick Mason, il reviendra avec Profiles en juillet 1985, un album enregistré avec le guitariste de Tennessee, Rick Fenn. Tous ses projets solo sont loin d'être des réussites. En tout cas, il n'y a rien de comparable avec ce que les quatre musiciens réussissaient à faire ensemble. Au cours de l'hiver 1986, David Gilmour et Nick Mason décide de ressusciter Pink Floyd sans Roger Waters. Mais celui-ci ne l'entend pas de cette oreille. Il leur intente un procès pour leur interdire d'utiliser le nom de Pink Floyd et d'interpréter l'ancien répertoire du groupe sur scène. Fin de la première heure de cette deuxième partie de la saga Pink Floyd, une saga qui au total dure 6 heures, 3 heures le week-end dernier, 3 heures ce week-end. On se retrouve dans quelques instants après l'actualité pour la suite de cette grande saga.